exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux. Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour, c'est l'émission Citoyen avec Luce, Laurent, Emmanuel et Julie à la technique. Le thème d'aujourd'hui est la parentalité et l'handicap psychique, en lien avec les portes ouvertes du GEM et la semaine d'information sur la santé mentale, la SISM, qui ont lieu en mars dernier. Nous avons posé la question suivante à différents intervenants. Qu'est-ce que la parentalité? Nous avons également recueilli le témoignage d'une mère dont l'enfant souffre d'une maladie psychique, elle-même souhaitant avoir un enfant. Puis, M. Giraud, ancien président de l'UNAFAM, qui nous fait partager son expérience. Commençons avec l'avis des adhérents du GEM.
Alors, qu'est-ce qu'être parent veut dire pour moi, pour vous ? Comme vous voulez. Alors pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà accepter l'enfant pour ce qu'il est, tel qu'il est, et l'assumer tout au long d'une vie. Pour moi, c'est ça.
Non, je ne suis pas parent, mais pour moi, être parent, ça veut dire s'occuper au moins d'un enfant. Ça fait beaucoup de responsabilités d'un coup. Il faut réussir à, comment dire, à assumer les responsabilités. Après, il faut l'aider tout au long de sa vie. Du coup, ça veut dire être en pleine forme, au mieux de sa forme, voire être aidé quand on ne va pas bien avec un handicap pour éduquer son enfant.
Je ne sais pas si on peut vraiment éduquer un enfant, parce que malgré donc, toute notre bonne volonté, il y aura toujours... quelque part, une incapacité pour nous de gérer partout où il va aller. Donc, je pense qu'être parent, c'est peut-être donc prévenir qu'il y a des dangers, mais tout en sachant que malgré tout, il y aura forcément donc, une incapacité de gérer la totalité du parcours. Voilà.
Bah oui, moi j'ai pu constater en étant parent, et même en étant enfant, qu'on ne peut pas effectivement tout contrôler, on ne peut pas toujours tout savoir. Et il faut accepter cette part de mystère, d'inconnu que représente l'enfant aussi. Et on ne peut pas savoir à l'avance où il va aller. Alors de toute façon, à un moment donné, il faut lâcher un peu prise. Il faut l'accepter, ça. Ce n'est pas facile.
Moi, je trouve qu'il y a d'autres lieux comme l'école, comme les colonies de vacances, où on apprend aussi beaucoup. On apprend aussi beaucoup en tant qu'enfant à se gérer. On a une autorité qui est différente des parents. Moi, j'ai vécu pas mal de colos. Et l'école permet aussi d'avoir une éducation. Voilà, l'enfant fait son expérience. Et il y a les parents, et après, il y a ce qu'il y a l'enfant, et chacun fait son expérience, je pense.
Mais... En fait, pour revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure, moi, je dirais aussi que pour les enfants, ça serait bien de leur donner les savoirs ou les connaissances. Pour qu'ils se forment, pas qu'ils se forment, mais qu'ils se donnent qu'ils arrivent à choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent pas faire et ce qu'il faut pas faire pour eux, ce qui est bon pour eux et ce qui est pas bon pour eux de faire.
Une transmission.
transmission des expériences malheureuses ou heureuses, et aider à se former un libre arbitre, quoi.
Moi, je dirais, dans la transmission, ce qui est important, enfin, moi, ce qui a été important pour moi dans ma croissance, c'est d'observer autour de moi ce que faisaient mes frères et sœurs aussi. Je veux dire, il n'y a pas que les parents. On observe aussi ce que font les frères et sœurs, et ça nous permet aussi de voir ce qui est bon ou pas bon, parce qu'on en discute entre nous. Parce que les parents, on a tendance, comme c'est l'autorité, à vouloir se rebeller. De toute façon, excusez-moi du terme, c'est un vieux con, bref, ou elle m'embête. Bref, alors que quand c'est les frères et sœurs, y a une complicité, il y a autre chose qui se joue. C'est pas la même autorité, c'est pas la même chose, et on le prend autrement.
Pour mon vécu personnel, j'avais beaucoup d'attentes de mes parents, et finalement, je pense que j'ai bien trop d'attentes vis-à-vis de mes parents.
C'est avoir la capacité d'accompagner l'enfant jusqu'à sa vie d'adulte.
Je pense que les parents ont tout le temps, la mère a tout le temps la vision de son enfant, même s'il a 40 ans. Et après, il y a un aspect, comme tu disais, c'est-à-dire qu'on l'accompagne jusqu'à l'âge adulte, et ensuite, il doit pouvoir voler de ses propres ailes.
Moi, je dis que pour être parent, malgré tout que j'ai pas mes parents à côté de moi, ils doivent respecter leurs enfants. De donner de l'amour, de la tendresse à leurs enfants. Et d'être unis entre parents et enfants.
Moi, je sais que j'ai eu des manques dans mon adolescence. C'était des contacts sociaux avec d'autres familles, mis à part à l'école. Donc, pour moi, la famille idéale, ça serait plus... pas forcément une famille famille, mais une famille ouverte. C'est pas forcément la famille comme on l'entend en sociologie, avec le parent, la mère, ou je sais pas, les enfants. D'accord. Ça serait plus, pour moi, la famille idéale, ça serait plus les liens affectifs qu'il peut y avoir autour avec plus des parrains ou des parents et des enfants et des copains. Ce qui est difficile quand on a une faiblesse.
Je crois pas qu'il y ait de famille idéale, en fait. Je crois que il faut faire avec l'histoire de ses parents aussi, quoi. Il faut aussi, en tant qu'enfant, apprendre à connaître ses parents aussi, à comprendre pourquoi ils ont tel ou tel défaut. Enfin, apprendre à les connaître, quoi. Je veux dire, c'est une interrelation, quoi. C'est pas à sens unique, quoi.
Il faut qu'il y ait de la complicité entre les parents et les enfants.
Je me dis que si donc on a une mère et un père, on n'en a pas d'autres. Et donc, quelque part, si ma mère, par exemple, a des défauts comme tout le monde, je veux dire qu'au lieu donc de je pense que c'est un lien très fort entre les parents, quoi, parce que
on n'a qu'une seule mère et qu'un seul père.
Donc quelque part, des gens qui passent dans la vie, je pense qu'il y en a plein, quoi. Il n'y en a pas plein, mais c'est pas ça. Mais je pense que c'est un socle indéracinable.
Après, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des liens forts avec leurs parents et qui se réinventent et qui recréent des liens avec d'autres gens différents, mais très forts aussi, je pense. Il y a pas que... Enfin, disons qu'il y a différents schémas et différentes expériences familiales.
Mais je me dis quand même que même si, par exemple, je rencontre quelqu'un d'autre donc les liens sont comme si c'était une affection maternelle ou parentale, je pense que justement, il y aura toujours quelque part cet instinct maternel que on reconnaît chez l'autre pour que justement le lien donc de secours, d'affection, tout ça, il soit vraiment producteur de confiance, de sécurité, tout ça, quoi. Je me dis que ça se trouve, en fait, on peut avoir n'importe quel père, mais pas n'importe quelle mère, quoi. Parce que c'est peut-être maternaliste ou je sais pas quoi, mais je trouve que...
Je pense que c'est ton expérience à toi.
non, parce que j'ai vraiment qu'un seul père. On vit pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Et donc, le père, il peut être parti ou je sais pas quoi. Il veut dire, on sera toujours en contact avec sa mère.
Bien, on va dire biologique, on va dire, peut-être avec sa mère plus fort. Physiologique, je dirais plutôt. Du fait, oui, en effet, de la grossesse. Oui, certainement, ouais, je suis assez d'accord.
Ce que j'aurais bien rajouté aussi, c'est qu'en fait, faut pas. Je sais pas, je pense qu'il ne faut pas rester trop proche de sa mère trop longtemps, et justement que le père puisse aussi avoir une place, voir d'autres personnes avoir une place. Mais c'est vrai que ce que j'ai entendu tout à l'heure pendant l'émission, c'est que Les parents, ils sont toujours là pour leurs enfants, souvent. Enfin, ça dépend, mais souvent, ils sont toujours là pour leurs enfants. C'est toujours rassurant d'avoir des parents. Quoi.
Tout à fait, mais moi, j'avais discuté avec, avec des amis qui étaient parents, qui me disaient que le père avait aussi... finalement, même si c'est la mère porte l'enfant dans 9 mois dans son ventre, le père a aussi un énorme... il y a aussi un énorme contact avec le père, quoi. Il y a aussi... c'est pas rien non plus. La parentalité entre deux papas ou deux mamans, ça peut marcher ou pas?
Alors ça, je sais pas, j'ai pas vécu l'expérience, mais à mon avis, ça pourrait peut-être marcher, parce que s'il y en a un qui joue le rôle, du moment qu'il joue les rôles, enfin, je sais même pas, non. Ça peut peut-être marcher du moment qu'il y a de l'affection, et je sais pas.
Je pense que t'as raison, du moment qu'il y a de l'affection et de l'amour, il y a peu une possibilité que ça marche. Est-ce qu'il y a des familles classiques chez qui ça peut pas marcher? Donc des fois, c'est le moins pire.
Ouais, entre deux pères ou deux mères, je sais pas justement si ça reproduit exactement le schéma parental habituel. Donc pour qu'un enfant puisse solidement trouver des bases pour la suite de son existence, je pense que les gens, quelque part, ils peuvent avoir des qualités qui peuvent donc reproduire le sentiment maternel ou le sentiment paternel. Donc, par exemple, quelqu'un qui est toujours là pour écouter son enfant, comme le ferait une mère, donc une écoute affectueuse, je pense que dans ces cas-là, oui, ça peut donc permettre de remplacer le schéma habituel. Voilà.
Non, moi, je voulais juste dire que moi, il me paraît quand même que le fait d'avoir un père et une mère, enfin, l'altérité, quoi, entre le masculin et le féminin est important quand même, quoi, pour aider l'enfant à appréhender le monde. Après, c'est vrai que, bon, bah, quand y a des enfants qui ont perdu leurs parents orphelins, bah, je pense que c'est toujours une bonne chose, quand même. Enfin, c'est mieux que rien, quoi, on va dire.
Pour moi, les couples homosexuels peuvent avoir des enfants. Si il donne de l'amour, l'enfant a de l'amour de ses parents, c'est que l'enfant recherche en général. Si c'est de l'amour, il y aura l'enfant.
Justement, j'ai un témoignage puisque j'ai une collègue qui est aide-soignante comme moi, qui est en couple avec une femme depuis quelques années, et donc leur projet, c'était évidemment d'avoir un enfant, et donc comme c'est pas permis malheureusement en France, elles sont allées en Espagne. Ce qui est dommage, c'est que, enfin à mon avis, c'est que ça coûte cher, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Heureusement pour elles, elles y sont allées qu'une fois, ça marchait du premier coup. Et ça s'est très bien passé, et maintenant la petite Zélie a un an, et c'est un couple vraiment, pour moi, qui arrive là maintenant à 54 ans et qui a des grands-enfants. J'ai vu plusieurs couples dans ma vie. C'est le premier couple de femmes que je vois. Et je suis vraiment très, très étonnée parce que je trouve ça super, l'amour de deux mamans. Après, je pense que deux papas, je ne connais pas, mais ça peut être très bien aussi. J'ai vu des émissions à la télé. En tout cas, deux mamans, c'est super. Voilà, la petite est très heureuse. Et si tous les enfants pouvaient être aussi heureux comme ça, ça serait bien.
Qu'il est chaud le soleil, quand nous sommes en vacances, il y a de la joie des hirondelles, c'est le sud de la France. Papa bricole au garage, maman lit dans chaise longue. Dans ce joli paysage, moi je me balade en tongue. Que de bonheur, tout irait pour le mieux. Que de bonheur, s'il n'y avait ce truc affreux.
On m'a volé mon âme. Bon compte, châtiment, malédiction. Rancœur, pénitence, désolation.
Et voilà le dessert, un énorme gâteau. C'est mon anniversaire, en avant les cadeaux. Que de bonheur, tout serait si paisible. Que de bonheur, s'il n'y avait ce truc horrible.
On m'a volé mon âme. Bon compte, châtiment, malédiction. Rancœur, pénitence, désolation.
Oh.
de suite, on va écouter une mère qui est venue parler pendant la schisme de son enfant psychotique et qui souhaite avoir un enfant et tous les problèmes qui en découlent.
J'ai une fille donc, qui a des troubles psychotiques, qui a été diagnostiquée déjà depuis 6-7 ans. Et elle arrive à un âge où elle aimerait évidemment avoir un enfant. Et voilà, pour moi, c'est le gros point d'interrogation. Comment ça va se passer? Parce que vu qu'elle n'est pas encore tout à fait stable, elle est beaucoup mieux avec un traitement maintenant, mais ce n'est pas encore ça. Et je me dis, est-ce qu'elle pourra un jour avoir le plaisir d'avoir un enfant. On en a parlé quand même avec son psychiatre, même si ce n'est pas un projet à court terme. Déjà, il faut que la personne soit vraiment stable. Et le souci, c'est que comme elle prend des médicaments, évidemment, assez forts et dont elle a besoin, a priori, elle va être obligée d'interrompre pendant la grossesse son traitement, avec tous les risques que ça comporte qu'elle soit moins bien psychologiquement. Puisqu'évidemment, elle ne peut pas prendre ces médicaments-là enceinte. Donc voilà, c'est compliqué. Je
me demandais si enfin, l'adoption, ça aurait pas été peut-être une envisageable, on va dire. Mais moi, je ne suis pas psychiatre, hein, mais j'y réfléchis aussi, moi, si je pouvais un jour être en couple. Et déjà, entre en couple, je me suis dit, ça risque d'être un peu compliqué parce que deux fois, j'ai des sautes d'humeur. Donc, je m'étais dit aussi, avoir un enfant en plus, ça fait des responsabilités, ça fait faut se libérer du temps pour s'occuper de son enfant et il faut être organisé, selon moi. Après, je m'étais dit, peut-être qu'avec des accompagnants externes, ça peut être faisable. Mais après, pour l'instant, moi, je n'ai pas poursuivi le projet.
Je me demandais justement, suite à ce que vous dites, je ne me suis pas encore renseignée, mais est-ce qu'actuellement, ou est-ce qu'il y aura des projets d'accompagner des personnes justement avec des troubles psychiques ? Par rapport à donc une adoption éventuellement, enfin, en tout cas le fait d'avoir un enfant, l'éducation, surtout l'aide quand ils sont bébés, est-ce qu'il peut y avoir un encadrement
Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai entendu beaucoup de personnes donc, à problème psy, et donc on leur a retiré la garde des enfants. En fait. L'idée serait donc d'avoir un toit où donc, les femmes... vivre avec leur enfant et soient entourés pour que donc on leur apprenne les gestes qu'elles pourraient donc ne pas donc avoir instinctivement et voilà.
C'était pour revenir sur la question. Vous n'avez pas pensé à pouvoir l'accompagner avec toute la structure familiale autour, non?
Actuellement, bien sûr, ça, d'instinct, voilà, je voudrais l'aider, mais seulement je ne suis pas forcément disponible, je ne serais pas assez disponible. Et surtout, je ne pense pas que finalement, un encadrement familial, je pense que ça serait peut-être mieux par une personne, par un tiers. Parce que quelquefois, voilà, elle peut... Elle n'a pas la même façon de réagir, même si on s'entend très bien, elle n'a pas la même façon de réagir avec une famille. Et quelquefois, ça peut se passer mieux avec une personne de l'extérieur. Comme par exemple, là, il y a une auxiliaire de vie qui vient faire son ménage. Ça se passe beaucoup mieux que si c'est moi qui l'aide.
En fait, quand on fait des enfants, on est quand même deux. Et a priori, même si un des deux conjoints est malade, l'autre peut s'en charger et passer le temps jusqu'à ce que l'autre vienne en forme. Et qui sont de nouveau deux parents à s'occuper. Enfin, je pense que ça compte beaucoup le fait qu'un enfant soit entouré et qu'il ne soit pas laissé à livrer à lui-même.
C'est ce que j'ai pensé, bien sûr, et c'est ce que j'aimerais. Sauf que j'ai l'impression que si elle a le bonheur de rencontrer l'homme de sa vie, je pense que ça a des chances d'être une personne qui, peut-être comme elle, a des troubles. Donc, parce qu'évidemment, c'est pas facile quand on est dans son cas de se mettre en couple avec une personne qui n'est pas concernée par ce genre de maladie. Donc, du coup, si c'est les deux parents avec des troubles, il y a toujours un risque, quoi.
J'ai juste ajouté que, contrairement à ce que vous dites,
votre fille n'est pas condamnée, entre guillemets, à rencontrer une personne en situation de handicap. Elle peut très bien rencontrer une personne normale et faire sa vie avec. C'était juste pour dire ça.
Je pensais, parce que moi, dans mon cas, moi, je sais que j'ai des frères et sœurs et je m'occupe un peu de leurs enfants de temps en temps, et, enfin, avec mes parents quand on garde leurs enfants. Ou alors, on va chez mes frères et sœurs, enfin, je vais de temps en temps chez mes frères et sœurs m'occuper de leurs enfants. C'est un peu une sorte de parrainage de babysitting. Et du coup, ça compense le fait que, pour moi, ça compense un peu ça, mais...
Ça compense le fait que, pour l'instant, t'es pas un enfant, quoi. Ça te permet, toi, d'avoir une approche des enfants.
Je me suis dit, en fait, que ça serait pas possible dans mon cas, moi.
Et moi, je me vois, mes parents, d'origine, ils ont pas dû avoir des enfants. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous les deux malades, malgré tout. Et c'est vrai qu'on n'aurait pas dû être nés. Moi, j'aurais préféré que ma mère elle avorte que d'avoir des enfants. Parce qu'après, ça, les maladies, ça revient sur les enfants. Et ça joue sur mon moral. Bon, je suis suivie, j'ai un psychiatre, j'ai des médicaments. Mais moi, le problème, c'est que ma psychiatre, elle me dit, surtout ne fais pas des enfants comme tes parents. Parce que ça va ressurgir sur tes enfants et tes parents. Et tes enfants vont être malades, donc ça ne sert à rien de se forcer. Et ma mère, elle voudrait absolument que j'ai un enfant pour lui faire plaisir. Mais moi, je ne peux pas, malheureusement, lui faire plaisir pour avoir un enfant.
T'as bien raison.
Et je préfère prendre sur moi. C'est vrai qu'il y a des moments, bon, elle est dans un foyer de vie, elle est bipolaire. Mon père, malheureusement, est décédé. Je ne ferai pas les mêmes erreurs que mes parents, malheureusement. Bon, c'est vrai que, bon, malgré tout, mon enfance, j'ai pas été facile parce que j'étais en pédopsychiatrie, après j'étais à la DAS. Ils m'ont pas soutenue moralement et physiquement, ils m'ont pas donné cet amour, ils m'ont pas donné la tendresse que je voulais, ils m'ont rien donné, malheureusement. Heureusement que j'ai un mari qui m'a soutenue depuis 3 ans maintenant, bientôt 3 ans, il m'a soutenue. Il a frappé haut et fort. J'ai fait des crises pas possibles, c'était une galère pas possible. Enfin, je vais pas pleurer, j'espère. Mais c'est vrai que j'ai vécu l'enfer. Et là, j'ai un très bon traitement avec un bon psychiatre, avec un très bon mari qui me soutient moralement et physiquement. Je sais très bien que le jour où j'ai un problème, mon mari sera là pour me soutenir, ainsi que les médecins, les spécialistes, les psychiatres, les psychologues, tout ce qu'on veut, quoi.
Je me posais la question de savoir, mais moi, a priori, si... Par exemple, si ma fille avait un enfant, elle a des troubles psychotiques, est-ce que si elle mettait au monde un enfant, il y a des risques effectivement de transmission ?
C'est pas prouvé encore. C'est plus complexe que ça. Ça dépend des gens. Ça dépend oui. Des gens, ça va être héréditaire et d'autres pas.
Je sais qu'en génétique, c'est l'auto en fait, mais il y a des probabilités qui font que. Un psychiatre m'avait dit que s'il y a dans le génome des parents ou des grands-parents certains risques, il y a des risques après à la loterie. Quand les enfants arrivent, c'est un peu la loterie et il y a quand même des risques.
Ok.
Je pensais juste que on réagit par rapport à ses parents ou s'ils sont en colère ou n'importe quoi, et donc s'ils sont psychotiques aussi. Donc je me dis que soit on réagit, donc on est coriace ou je sais pas quoi, et donc on va pas se laisser emprisonner dans les schémas de sa mère ou de sa mère, et donc là je dis pourquoi pas, mais par contre ça arrive assez souvent, je pense quand même, que on reproduise les erreurs de ses parents.
Je pense qu'on ne peut pas s'affranchir complètement du biologique, justement, par rapport à ça. À mon avis, il y a quand même une composante héréditaire, enfin, à mes yeux. J'avais déjà lu que, dans une étude, enfin, scientifique, que des traumatismes psychiques pouvaient altérer le génome, les gènes. Donc, manifestement, ça peut se transmettre, quoi, du moins.
Avant qu'on trouve, enfin, et encore, on n'a pas forcément trouvé le traitement qui la rend complètement stable, mais pendant des années, depuis l'adolescence, les psychiatres ont dû essayer différents traitements. Je me doute que c'est des traitements assez forts, parce que, voilà, pour gérer des troubles psychotiques, éviter des crises, c'est pas anodin. Et donc je pense qu'à mon avis, même si je suis pas scientifique, mais je pense que forcément l'organisme voilà, peut avoir des séquelles après et donc transmettre, je pense. En tout cas, dans le doute, c'est vrai que bah, finalement, je me rends compte que c'est vraiment un gros risque de qu'elle puisse avoir un enfant, parce que déjà, quand on a soi-même des troubles psychotiques, effectivement, on se rend compte que la vie n'est pas facile. L'adoption, ben, finalement, c'est pas possible. Ça sera, c'est même pas la peine d'essayer, puisque, et après, c'est compréhensible aussi. Y a des risques quand même. C'est vrai que c'est normal qu'ils fassent des enquêtes sur les parents. Et donc, finalement, ben, malheureusement, j'ai l'impression que des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques peuvent juste assouvir leurs besoins de maternité avec des enfants des autres, quoi. Voilà.
Moi, je ne suis pas tout à fait... Enfin, moi, je pense que le plus important, c'est si elle a envie d'avoir des enfants, c'est ça le plus important. Je veux dire, si elle a de l'amour à donner, alors c'est sûr, elle a ses problèmes, ce n'est pas facile, certainement. Il y a pas mal de choses à prendre en compte, mais je pense que vraiment le plus important, c'est l'amour qu'elle peut donner à ses enfants, quoi. Après, il faut en effet qu'elle puisse se prendre en main un minimum, c'est sûr, faire face à son rôle de parent. Mais moi, je pense sincèrement que si c'est surtout au niveau de l'amour, quoi. C'est surtout ça qui est important, en fait.
Moi, de mon côté, j'ai des amies. Elles ont eu des enfants. Elles sont handicapées comme toi. Et elles ont eu des enfants. Elles ont réussi à les gérer.
Après, je pense que c'est que tous les exemples sont différents.
Oui.
Ton exemple est différent. Donc, on ne peut pas comparer. Il n'y a pas une vérité.
À moins qu'elle trouve... dans ce cas-là, à moins qu'elle trouve un mari qui a déjà un enfant. Je pense que ce sera la solution... La solution qui pourrait passer.
Qui aurait la garde d'enfant ou qui aurait une garde alternée ou. Ouais. Quelqu'un de divorcé qui aurait un enfant. Comme je disais tout à l'heure, en fin de compte, c'est vrai que ça pourrait être bien, mais voilà, c'est de toute façon, en fin de compte, c'est s'occuper d'un enfant, voilà, qui est déjà là, quoi. Avec une personne à côté qui peut l'épauler et. Qui psychiquement n'a pas de problème. Ou alors je me disais, ce qui serait bien, c'est s'il y avait, donc ça je m'adresse à, je sais pas, à l'État, au gouvernement, et est-ce qu'il ne serait pas possible justement pour que des jeunes filles puissent combler ce manque d'être mère, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que des jeunes comme ça, qui souvent n'arrivent pas à trouver un emploi, donc sont inactives et s'ennuient, est-ce qu'on ne pourrait pas leur permettre des accès, par exemple, à, je sais pas, à la DAS, dans les crèches. Par exemple, ma fille, avant ses troubles, a fait un BEP sanitaire et social et elle aurait voulu s'occuper d'enfants. Actuellement, c'est très difficile, évidemment, puisque maintenant, elle a un handicap. Est-ce qu'on ne pourrait pas faciliter l'accès des handicapés psychiques dans certaines structures pour justement combler ce manque de maternité ?
Marioli, là au moins 4 ans, il veut te piquer, t'appeler ton son. Ta couche culotte avec les bons becs dedans, Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur non conventionné. J'ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je connais bien les playboys des vacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Donc je suis là, que je te regarde, que je t'aime. Lola. pas. Comme j'en ai marre de me faire tatouer des machins qui font comme une bande dessinée sur la peau. J'écris ton nom avec des clous dorés, un par un planté dans le cuir de mon blouson, dans le dos. T'es la seule gonzesse que je peux tenir dans mes bras, sans démettre une épaule, sans plier sous ton poids. Tu pèses moins lourd qu'un moineau qui mange pas. Déploie jamais tes ailes, Lolita, t'envole pas. Avec tes miches de rat, on dirait des noisettes. Et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat. Tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand t'iras à l'école, si jamais t'y vas, Lola. Tu sais, maman, je suis Morgane de toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux un petit frangin? Tu veux que je t'achète un ami Pierrot? Les bébés se trouvent pas dans les magasins. Et je crois pas que ta mère voudrait que je lui fasse un petit dans le dos. Ben quoi Lola, on n'est pas bien ensemble. Tu crois pas qu'on est déjà bien assez nombreux? T'entends pas ce cri, c'est le monde qui tremble sous les cris des enfants qui sont malheureux. Allez, viens avec moi, je t'embarque dans ma galère. Dans mon arche, y'a de la place pour tous les marmots. Avant que ce monde devienne un grand cimetière, faut profiter un peu du vent qu'on a dans le dos. Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, je suis Morgane de toi. Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas.
Nous sommes sur Jet FM dans l'émission Citoyen 91.2. Nous allons entendre maintenant l'ancien président de l'UNAFAM, Monsieur Giroud, pour en savoir plus sur la parentalité et la maladie psychique.
Monsieur Giroud, pouvez-vous vous présenter personnellement, s'il vous plaît ?
Bien, alors, moi j'appartiens à l'UNAFAM. Alors, peut-être décliner l'acronyme UNAFAM, c'est Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et ou handicapé psychique. Donc c'est un peu long, mais c'est très intentionnel. Donc je dois être à l'UNAFAM depuis maintenant 12 ans. Je me suis occupé de la délégation UNAFAM de Loire-Atlantique pendant 3 ans, puis après au niveau régional, de la délégation régionale. Puis maintenant, je m'agite, si je puis dire, beaucoup au sein de la conférence régionale de santé et d'autonomie, qui vous est peut-être moins familière. Et puis au sein, je suis président également du CREPSI, qui est le centre de ressources handicap psychique pour les Pays de Loire.
L'UNAFAM, quel est son rôle auprès des familles?
Nous sommes là pour apporter un soutien aux familles, parce que lorsque la maladie psychique arrive, bien sûr, la personne qui en est victime vit une position très difficile, sinon un enfer. Mais pour également la famille, et quand je mets la famille, c'est au sens le plus large, c'est-à-dire les parents, mais aussi le reste de la fratrie, s'il y a une fratrie. Bon, est complètement ahuri par ce qui lui arrive. On pourra peut-être en reparler. Et besoin d'aide. Hein, on commence à voir sur les panneaux, si vous aidez les malades, aidez aussi les aidants. Hein. Donc, nous sommes là pour aider les aidants et entre pairs. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un proche qui est malade ou en situation de handicap psychique. Ça, c'est, je dirais, c'est la première mission. S'il devait en rester qu'une, c'est celle-là. La deuxième, c'est on a une mission de représentation, c'est-à-dire qu'UNAFAM est dit en termes administratifs une association agréée, je passe sur cette particularité, c'est-à-dire qu'on représente l'usager dans l'ensemble des institutions où va se trouver la personne malade ou en situation de handicap. Donc ça va être l'hôpital, ça va être des établissements médico-sociaux, etc., etc. Donc ça, c'est notre deuxième grande mission. Et la troisième, c'est de participer là où nous pouvons, je dirais, j'ose pas dire la promotion de la maladie du handicap, mais bien expliquer ce qu'entraîne la maladie, ce qu'entraîne le handicap et ce que ça représente pour les personnes qui en sont atteintes, pour vous. Donc être quelque part votre porte-voix. Le fait-on bien, le fait-on mal, c'est tout un débat.
Pour vous, en fait, quelle est la meilleure chose à faire quand on est parent d'un enfant, effectivement, qui présente des troubles psychiatriques, de ce genre, de ce style-là? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus efficace, en fait, pour aider la personne qui souffre?
Ce que je vais dire est un peu paradoxal. Je ne sais pas si la famille est la mieux placée pour aider. Parce que, au moment, si on va prendre un exemple courant, généralement, ça va se déclarer chez une personne entre 18 et 22 ans. Voilà. Et c'est très brutal à ce moment-là. Et là, la famille va d'abord passer par un stade où elle va comprendre qu'elle perd l'enfant idéal. Quand on a eu son enfant, on a toujours eu l'idée qu'il ou elle allait faire ceci, cela, et on a une vision un peu cosmique. Hein. Et là, tout d'un coup, la famille s'aperçoit que tout ça, il faut oublier. Manifestement, c'est fini. Donc, il faut qu'elle digère ça. Elle n'est pas beaucoup en position d'aider.
Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.
Où elle peut être en position d'aider, et c'est là, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qu'on intervient, c'est qu'on a monté des formations qui nous sont propres. C'est former les parents à avoir la bonne attitude vis-à-vis de leurs proches. Hein. Il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Et de façon à rétablir une communication où tout le monde peut se retrouver, le proche malade ou et la famille.
Pour continuer sur une autre question qui s'y rapproche, que faites-vous face au désarroi des parents et des enfants? Est-ce que vous...
Alors dans votre question, je dirais il y a une question dans la question. C'est-à-dire que quand on parle de parentalité, à mon avis, ça n'engage que moi, c'est pas simplement les parents. Alors, il y a une première parentalité, on pourrait dire, qui est la relation parent-enfant. Mais aussi, il y a, à l'inverse, quand c'est les parents qui sont malades et qu'il y a les enfants. Donc là, c'est une autre forme de parentalité, puisqu'ils deviennent quelque part, c'est pas tout à fait vrai, enfin, j'exprime comme ça, les parents de leurs parents. Il y a une troisième forme. Et vous l'avez abordé en parlant de la fratrie. Prenez une famille de trois enfants. Il va y avoir celle qui est malade et puis les deux autres. Et on s'aperçoit avec le temps que les parents vont accorder une attention excessive, mais à leur insu, à la personne malade. Et les autres, et ça ressort jamais tout de suite, vont être un peu, non pas délaissés, c'est beau, mais vont pas recevoir forcément la même affection, etc., etc. Donc, ça crée encore une troisième sorte de parentalité. Et chez ceux qui n'ont pas été malades, ça n'arrive pas tout de suite. Ça arrive quand eux-mêmes vont avoir des enfants. On voit ressurgir un mal-être qui avait été enfoui. Et puis, il y a la parentalité des grands-parents. Parce que quand les parents sont malades, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est des grands-parents. Et on voit arriver en première ligne des grands-parents qui, alors là, sont encore plus démunis que les parents. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ça peut paraître tout bête de dire ça. Dans un premier temps, il faut les écouter. Parce que la douleur est telle qu'ils ne peuvent pas s'exprimer et que quand ils s'expriment, c'est une logorée. On n'arrête pas. Mais il faut écouter. Bien souvent, sur des primo-arrivants, on va parler avec eux pendant, je ne sais pas, une heure. Si, au bout d'une heure, on arrête. Quitte à recommencer, mais au bout d'une heure, on arrête. Très, très souvent, les gens nous disent au bout d'une heure, ça m'a fait du bien. Et puis, au moment où, je dirais, ils sont mûrs, leur dire, ben, on peut vous proposer telle formation, parce qu'on a des formations pour leur permettre de récupérer, et c'est-à-dire de revivre pour eux, parce que le risque, c'est qu'ils risquent de complètement se noyer dans la maladie, et ils ne vivent plus pour eux. Vivent pour, faut être un peu égoïste, hein. C'est-à-dire ils vont perdre leur vie sociale. S'ils n'ont plus leur vie sociale, ils vont perdre de l'énergie sans s'en apercevoir. Et pour le coup, ils seront encore moins aidants pour leurs enfants.
En fait, c'est une question d'équilibre, hein, ce que vous nous dites. C'est un équilibre entre la vie sociale, l'enfant malade, et finalement, pour soi, essayer d'avoir un quant à soi, une vie propre. Et pour permettre aussi peut-être à l'autre aussi d'avoir sa propre, son espace aussi.
Exactement. D'un point de vue des parents, on n'élève pas des enfants pour soi. On sait qu'un jour ou l'autre, ils vont quitter. Hein. Bon, ils vont avoir leur vie, ils vont se marier, etc. Ça, c'est le schéma, ce que j'appelle l'enfant rêvé. Il a une situation, il est marié, il a des enfants, ça c'est l'enfant rêvé. Même si cet enfant rêvé demain dit ben moi ma vie elle n'est pas ici, elle est aux USA et que ben, évidemment ils ne vont plus beaucoup le voir, mais ils savent qu'il est là, qu'il vit, on s'écrit, on se voit, on fait du Skype, on fait bon, tandis que là c'est une rupture brutale, c'est plus le même, j'ai plus la petite fille qui avait 6 ans avec des cheveux blonds. Enfin bon, c'est fini. Et c'est très brutal. Et pour des maladies, je ne vais pas mettre d'échelle dans les maladies, mais une maladie chronique, si elle fait un diabète de type 1, qui n'est quand même pas rien, mais on va le dire. Voilà, ma fille a un diabète de type 1, ça m'oblige à ceci, ça m'oblige à cela, etc. Comme je vous l'ai dit, on voit rarement dire « ma fille est schizophrène ». Ça ne sort pas d'abord. Mais si ça sort, pouf, il n'y a plus personne. Donc, alors, si elle dit « j'ai un diabète, ma fille a un diabète de type 1 », tout le monde va dire « ah ben oui, etc. Et qu'est-ce que vous faites ?» Enfin, on va avoir une compassion réelle ou feinte, mais il y a vraiment une compassion. Là, c'est une espèce de peur.
Je sais que ça arrive des cas où la personne tombe malade à l'âge adulte et a déjà des enfants. Dans ces cas-là, est-ce qu'on aide les enfants, les parents? Comment on fait, en fait? Dans ces cas-là, parce que c'est plus compliqué. Moi, je sais, c'est personnel, ça m'est arrivé, j'avais 31 ans. J'avais déjà un enfant. Et là, j'ai été paumée, j'ai été perdue parce que je ne savais pas vers qui me tourner exactement pour faire face, en fait. Et ça a été très compliqué. Et ma fille en souffre encore aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Est-ce que l'UNAFAM répond aussi à ces questions-là?
Elle répond forcément à ces questions. Le cas que vous évoquez est relativement fréquent. Enfin, on porte la même attention à la fratrie ou à la personne dans la fratrie qui décide de s'y investir, parce que c'est souvent ça. Il y en a un qui se colle au problème. Bon. Et c'est peut-être un des cas les plus douloureux qui soit posé, c'est est-ce que, je vais aller même un peu au-delà, est-ce qu'une personne dont on sait qu'elle a des troubles psychiques graves peut avoir un enfant sans qu'il y ait de risque pour cet enfant? Donc, est-ce que l'enfant qui va naître sera porteur d'un risque, et c'est-à-dire qu'il développera à son tour à un moment X ou Y une maladie psychique ou pas? C'est ça qui est posé, et où aujourd'hui il n'y a pas vraiment de réponse établie sur l'aspect génétique des maladies psychiques. C'est ça qui est derrière, je pense, votre interrogation. Il y a 15 ans, on vous aurait dit absolument pas. C'est de la faute de la mère. C'était gentil pour la mère, mais il y a des mères qui ont mon âge et qui l'ont entendu. Vous vous rendez compte? Bon, aujourd'hui, vers ce en quoi on voit, c'est que c'est pas génétique au sens premier du terme. Ça appartient, alors je ne vais pas me lancer dans les explications, dans l'épigénétique. Pour donner des choses simples, vous voyez, la génétique, c'est la spirale de l'ADN. Bon, elle n'est pas modifiée. Sauf que, imaginez qu'à un endroit de la spirale, il y a un accroc qui s'est fait. Et est-ce que cet accroc n'a pas provoqué une sensibilité à... Bon, la question reste posée. Donc, c'est pas génétique, mais il y a peut-être quand même des risques. D'où la réponse à la question. Il n'y a pas de réponse, d'ailleurs.
Donc, il y a eu plusieurs évolutions en psychiatrie par rapport donc, à nous, l'IMAD. Et donc, la dernière, c'était donc, le GEM, et donc, c'est-à-dire que c'est les malades qui s'occupent donc, d'eux-mêmes. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres perspectives d'avenir par rapport à ça, s'il y avait donc, une évolution qui ça continuait toujours, et c'était quoi la prochaine étape? Voilà.
Très bonne question, complexe à répondre. Je vais commencer par une anecdote. Quand les GEM sont nés, quand le texte est sorti, c'était une levée de bouclier de la psychiatrie qui a dit « c'est complètement fou, ça ne marchera pas, vous faites n'importe quoi, etc. » Les deux institutions qui ont porté le texte étaient l'AFNAPSI d'une part et l'UNAFAM. Et les premiers GEM qui sont sortis étaient tous, y compris vous, supportés par l'UNAFAM. Donc les médecins se sont trompés, tout le monde s'en est très bien sorti. Les GEM restent un exemple frappant. Les choses ne s'arrêtent pas là, on continue à évoluer. Alors, dans le même esprit, vous avez peut-être entendu parler alors, il y a les médiateurs santé-père, je fais attention à mes mots parce que c'est difficile, et les pères aidants, voilà. Bon, ça, c'est une tendance qui commence à se faire jour. Aujourd'hui, de voir des gens qui revendiquent la position de père aidant avec le propos de dire « mais nous, après tout, malades, on a acquis une expérience comme n'importe quelle maladie, on finit par connaître sa maladie, et on a acquis une expérience, et cette expérience, on peut la transmettre à ceux, donc c'est une démarche généreuse, de dire à ceux qui rentrent dans la maladie, ou aller expliquer des fois aux médecins que ce qu'ils font est peut-être pas... Ils croient faire bien, mais ils font pas bien, parce que moi, compte tenu de mon expérience, je vais vous dire. Ce mouvement-là est en train de prendre de l'ampleur, avec même une évolution, alors, à mon avis, à laquelle bon, faut pas trop y penser, parce que ça demande un travail acharné. C'est ce qu'ils appellent les médiateurs santé-père, c'est-à-dire c'est faut passer un diplôme universitaire. Et après un diplôme universitaire, une institution vous embauche pour acter, agir au sein d'un service de psychiatrie. C'est des mouvements neufs. Je mettrais plutôt, pour les gens qui arrivent à la position de médiateur santé-père, il faut d'abord... avoir cette bien entraînée pour être sûr que le fait de se retrouver dans un hôpital psychiatrique, en contact avec vos pères, qui ne sont pas au point où vous êtes arrivé vous, ça ne vous fasse pas rebasculer. Bon, c'est déjà... il faut travailler. Après, on est en France, il faut toujours avoir un diplôme. Donc, passer un diplôme universitaire. Donc, il faut bosser pendant un an pour avoir le parchemin. Et la loi dit, parce que la loi encadre ça, il dit, bon, bah, mais d'abord, il faut que vous soyez pris en charge par une entité. Et ça peut être qu'un hôpital psychiatrique. Et c'est vrai que ça, ça va être du temps. Et du temps passé. Donc, le temps passé se rémunère comme si vous faites demain un métier, même si c'est 10 heures par semaine, vous serez rémunéré. Encore une fois, il ne faut pas se polariser sur cet exemple qui est vraiment dans le haut de l'échelle. Moi, je serais beaucoup plus attentif à cette volonté qui s'exprime d'être un père aidant. Ce que je sais, je veux le faire partager, par pur altruisme. Et nous, là, à UNAFAM, on est très, très attentif à ça. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, on dit qu'on représente les usagers. On usurpe une place, quelque part. Nous ne sommes que les parents. Mais ce n'est pas forcément un chemin et un long fleuve tranquille que d'être représentant des usagers dans les instances. Et j'entends de plus en plus souvent que quand on a besoin d'un représentant d'usagers dans telle ou telle, disons, réunion où il fait bon d'avoir un représentant d'usagers, qu'est-ce que j'entends ? On va demander à quelqu'un du GEM. Et là, je vous dis franchement, je dis, attention, le GEM n'a pas pour vocation d'être l'usager témoin qu'on sort comme ça quand on en a besoin, puis on le remet dans la case quand c'est fini. Enfin, la personne, elle fonctionne à l'intérieur de son GEM avec les motivations du GEM. C'est très clair dans un décret. Donc, attention de ne pas vous faire, je dirais, récupérer dans le bon sens du terme, sous prétexte que, à titre de GEM, que maintenant l'un ou l'autre d'entre vous dise « moi, ça m'intéresse », ça, à titre individuel, on peut très bien le comprendre. Mais moi, je monte au rideau à chaque fois que j'entends « on va demander au GEM ». Non, vous pouvez poser la question au GEM si quelqu'un d'entre eux est volontaire, mais pas embarquer l'entité GEM dans son... le paquet, bien, voilà. On va secouer, il y en a un qui va tomber. Il y a d'autres choses qui se développent. Hein. Aujourd'hui, tout ce qui est réhabilitation, remédiation cognitive, là, on est plus sur l'aspect médical, mais un médical plutôt médico-social. Aujourd'hui, se développe de façon fort intéressante, mais pas toujours appréciée à sa juste valeur par le corps médical, je dirais, classique. Pour faire encore très général, même si ça heurte après, les maladies psychiques sont des maladies qui ont comme conséquence des troubles de la cognition, c'est-à-dire le rapport à l'autre, le rapport et le rapport à ce qui est autour de moi, l'espace, le lieu, si c'est haut, si c'est petit, enfin bon. Et donc, le principe, c'est de dire, eh bien, dans toute personne, il y a quelque chose de positif. C'est comme si on construit un immeuble, le sol est mou, mais on va aller faire des pieux pour aller trouver la roche. Ben là, c'est pareil, on va trouver ce qui est solide chez la personne. Et il y en a chez tout le monde. Donc, pas forcément la même chose. Donc, dans l'individualité de la personne, d'où des systèmes d'évaluation qui se mettent au point en parallèle. Et là, on va trouver le point solide. Et c'est sur le point solide qu'on va construire. Et comme on construit sur un point solide, la personne va en sentir les bienfaits. Si elle en sent les bienfaits, on tombe, si je puis dire, dans une sorte d'addiction. Si c'est bien, je vais en redemander, je vais en refaire. Et donc, comme ça, petit à petit, on va aller au-delà de sa maladie. Il n'y a pas de médicament, c'est très bien. C'est vraiment le travail de son psychisme. Donc, Oui, il se passe beaucoup de choses. Maintenant, ça se développe de façon pas forcément très régulée, un peu chaotique, parce que tout le corps médical n'en est pas forcément convaincu. Mais nous en sommes convaincus.
Vous êtes contre les médicaments ?
Je suis pas contre. Non, parce que il en faut absolument pour qu'un certain apaisement, une certaine régulation qui se fasse. Mais ça peut pas être pas que ça. Ça peut pas être l'unique réponse.
Ben on vous remercie, Monsieur Giraud. On vous remercie beaucoup.
Et ben, c'est moi qui vous remercie.
Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.